CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce MAG. On vous proposera une conférence pour ce vendredi, une conférence sous forme d'enquête sur une bataille oubliée en Tarn-et-Garonne. C'était à Montalza, c'était en 1369, en plein pendant la guerre de 100 ans. C'est une conférence organisée par l'association Les Échanges Essentiels à Nègrepelisse qui propose un cycle régulier. Il y a une conférence par mois à peu près à l'auditorium du château à Nègrepelisse. Donc ce vendredi pour une enquête sur une bataille du Moyen-Âge, la guerre de 100 ans au menu dans ce MAG après la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques, puisque oui, on est mardi, on retrouve Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause artichaut, cœur estampé et doré. Avec tout d'abord une jolie BD, Cœur de pierre, de Séverine Gauthier, illustrée par Jérémy Almanza. C'est un conte qui, dès la couverture, comme scindé en deux, un côté plus gothique et sombre avec un jeune garçon triste, et de l'autre plus coloré autour d'une jeune fille scintillante. C'est un conte, celui d'un enfant qui naît avec un cœur qui ne bat pas, un cœur qui ne ressent pas. C'est une pierre qui le remplace. Il ne pourra ainsi ni sourire, ni ressentir, ni aimer. Ses parents l'abandonnent alors, le laissant à sa triste existence. Parallèlement, naît une petite fille au cœur d'artichaut, adorée par ses parents et qui répand le bonheur autour d'elle par son sourire. Mais l'insouciance a aussi son prix. Lorsqu'elle croise le garçon, c'est le coup de foudre. Alors, elle ouvrit sa poitrine et en sortit son cœur, et tandis qu'il battait dans le creux de sa main, elle fut étonnée de n'avoir pas plus peur au moment de l'offrir pour toujours à quelqu'un. Il leva ses yeux pâles et elle lui sourit. Il ne savait pas ce qu'elle attendait de lui. Il déchira la feuille de son cœur d'artichaut et passa son chemin sans même dire un mot. C'est une jolie histoire qui fera intervenir un troisième protagoniste, raconté par un narrateur, raconté en vers et sans dialogue. Tout est centré sur les personnages. Chacun d'eux développe un univers graphique qui lui est propre. Vert marron pour l'enfant au cœur de pierre, rose orange pour l'enfant au cœur d'artichaut. L'ouvrage fait la paire belle aux ambiances, jouant sur les couleurs et les lumières pour renforcer le propos. De la poésie en image, d'une tristesse insondable, certes, mais sublimée par les graphismes absolument fabuleux de Jérémy Almanza. La force de l'œuvre est sans conteste l'excellent rapport entre l'image et le texte. Almanza et Gauthier se sont bien trouvés et complétés. Ici, il y a un lien puissant entre la narration et les illustrations proposées, avec une mise en page variée, faisant la part belle aux grandes cases, voire même aux pleines pages. On tient là une pépite faussement naïve, jamais édulcorée, un petit bijou de beauté et de tendresse émotionnellement riche dans un écrin somptueux. À lire seul ou en famille, mais avec de quoi essuyer ses larmes, et surtout à aimer d'un amour simple et sincère. Après vous êtes mouché bruyamment, je vous propose, et sans vouloir sombrer dans les abysses inexorables et des abîmes atrabilaires, une plongée dans l'univers du Gustave Doré, avec une rétrospective inédite. Fantastique, Gustave Doré. 473 pages d'estampes, gravures, peintures. Artiste complet, Gustave Doré, dessinateur, graveur, peintre et sculpteur, son génie dans l'illustration littéraire lui vaut d'être passé dans l'inconscient collectif, d'avoir influencé le cinéma, l'animation, la bande dessinée et la publicité. Il est l'un des plus doués, mais aussi des plus prolifiques dessinateurs du 19e siècle. Il touche à tout, à la caricature des hommes de son temps, au reportage de guerre, la fable, la poésie, au romanesque aussi, mais aussi à l'allégorie et au paysage. Il a livré des caricatures comiques et des images sérieuses, des visions fantastiques et des vues contemplatives. Un observateur du réel, virtuose de la fantaisie. Tout un monde d'illustrations, dont de Balzac à Cervantes, en passant par Milton, Rabelais, Dante et Poe, on découvre toute la panoplie de son art au travers de ses œuvres littéraires qu'il a si bien su magnifier par ses visuels d'une beauté ténébreuse qui illumine l'ombre de nos fantasmes horrifiques. Dans ce beau livre, par Alix Paré et Valérie Sueur-Hermel, ce sont pour une fois les textes qui illustrent l'image, image remise en contexte pour mieux saisir l'impact qu'elles ont eu auprès du public. Émile Zola, à propos des illustrations de Gustave Doré pour Don Quichotte, dira « On appelle ça illustrer un ouvrage, moi je prétends que c'est le refaire. Au lieu d'un chef-d'œuvre, l'esprit humain en compte deux. » Gustave Doré, c'est plus de 10 000 illustrations tout genre, et si on se souvient surtout de ses gravures souvent sombres dans la forme et le fond, on tombe dans ce livre ici et là sur d'autres plus bucoliques, légères et colorées, comiques parfois, avec notamment celle du baron de Munchausen, ou plus sobrement des paysages de campagne. C'est pas juste beau, c'est fantastiquement épique et orgueilleusement solennel. Bref, un monde, des mondes à redécouvrir d'un œil nouveau pour se les graver dans la rétine. Sur ce, je vous laisse. Cœur de pierre de Gauthier et Almanza et fantastique Gustave Doré de Paré et et Sueur Hermel sont disponibles dans votre réseau des médiathèques préférées. Bonne lecture et à bientôt.
Et toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont bien sûr à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr.
Fingers out, fucking lazy.
CFM Quélus, Le mag.
De retour dans ce mag où on vous propose une conférence pour ce vendredi. C'est du côté de Nègrepelisse, une conférence organisée par l'association Les Échanges Essentiels où on va enquêter sur une bataille oubliée en Tarn-et-Garonne à Montalza, plus précisément en 1369. Cette conférence nous sera donnée par William Donarel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire géo et vous avez donc exhumé cette bataille de Montalza, des fouillis, des archives. On n'entend pas beaucoup parler quand on regarde un petit peu le bréviaire militaire de la guerre de Cent Ans.
Alors déjà, même moi, je ne la connaissais pas. Bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la connaissance infuse, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Tarn-et-Garonne en 2018, j'ai commencé bien évidemment à m'intéresser à l'histoire locale, et un jour que je devais aller à Montalza de Quercy parce qu'on m'avait chaudement recommandé l'endroit, j'ai un petit peu déblayé le terrain au travers d'articles et j'ai trouvé une toute petite mention de la bataille de Montalza reliée à Montalza de Quercy, et je me suis dit tiens, je la connais pas celle-là, et j'ai commencé à fouiller comme ça, à chercher, et ça a commencé de cette manière. Voilà, donc ça fait plus de 3-4 ans, on est en 2018-2025, ouais, ça fait 6-7 ans finalement que je suis en train de gratouiller autour de cette bataille, en partant du constat que je n'ai qu'une seule lettre qui mentionne cette bataille en 1369. Je suis parti avec une seule mention, voilà.
Alors, parlez-nous-en de cette lettre et où vous êtes maintenant, on fait les choses dans l'ordre.
Je suis parti un peu, j'ai envie de dire, comme dans un puzzle. Quand on ouvre un puzzle avec 10 000 pièces, on essaie d'abord de commencer par le cadre, avant de commencer par le centre. Et il a fallu donc que je redéfinisse cette bataille dans son contexte, c'est-à-dire la guerre de Cent Ans en France. Pourquoi, comment on y est arrivé, de quelle manière. Et ensuite, il a fallu que je cherche effectivement, d'abord par des repérages, sur le terrain, parce que la bataille de Montalza, c'est pas évident. Pendant plusieurs centaines d'années, à partir du 19e siècle, on a positionné la bataille au mauvais endroit, du côté de Puy-la-Garde, le village, et donc 50 km plus au nord, jusqu'à ce que je trouve une monographie oubliée de quelqu'un qui a passé ça dans les archives de la Société d'archéologie du Tarn-et-Garonne, et qui a rappelé que Montalza, à l'origine, était coupée en deux, la butte était coupée en deux entre le village de Montalza et la partie noble de la butte, là où il y avait le château. Il y a le château d'eau à l'heure actuelle, c'est l'ancien château des frères Puy de la Garde. Donc voilà, ça part de là, et ensuite je vais commencer à escadronner un peu dans toute la région pour essayer de trouver des traces, etc., etc. J'ai passé énormément d'heures sur des archives numériques des bibliothèques. Alors j'ai bien été aidé par le Covid, puisque nous étions confinés à ce moment-là, donc j'ai pu passer toutes les heures que je voulais là-dedans. Mais c'est vraiment un travail de restitution, comme si j'avais 10 000 pièces, mais qui étaient éparpillées aux quatre coins de la France et de la Grande-Bretagne.
Oui, et puis il y a un puzzle dont les pièces sont surtout planquées sous le tapis. Hein. Comment vous avez fait pour remonter à 1369?
Alors, la mention de la bataille était clairement citée dans les peu d'informations que j'avais. Donc le 17 janvier 1369, j'avais une date, mais on a un emplacement localisé, donc c'est la butte de Montalza, mais le champ de bataille n'est clairement pas identifié à ce jour. Là aussi, j'ai passé des heures à regarder une carte d'état-major, à chercher un nom, un hameau, un lieu-dit qui évoquerait quelque chose, mais à ce jour, pareil, où est-ce qu'a eu lieu cette bataille, on ne sait toujours pas, mais elle a eu lieu autour de Montalza, ça c'est clair.
Avec quelles conséquences alors ?
Alors, la conséquence pour la bataille en elle-même n'a rien changé dans l'immédiat, parce que le roi de France Charles V était un roi légaliste et qui voulait absolument avoir le droit pour lui, c'est-à-dire que s'il devait déclencher de nouveau la guerre contre les Anglais, il voulait absolument être dans son bon droit. Donc en fait, la bataille de Montalza a été déclenchée trop tôt par les capitaines français du secteur, donc de ce qu'on appelle le Tarn-et-Garonne actuel. Elle a été déclenchée trop tôt parce qu'il n'y avait pas de déclaration de guerre officiellement entre la France et l'Angleterre à ce moment-là. Il faut savoir que la guerre de Cent Ans a été une succession de périodes de bataille et de paix. Mmh. Et à ce moment-là, la France est techniquement en paix avec l'Angleterre depuis le traité de Brétigny en 1360. Et le Charles V ne voulait pas être celui qui allait redéclencher la guerre. Et en fait, le combat de Montalza a été déclenché en dépit du roi de France trop tôt. Et donc officiellement il n'a pas reconnu cette guerre, cette bataille, il n'en fait mention nulle part. C'est un petit peu plus tard qu'il a officiellement envoyé sa déclaration de guerre au roi d'Angleterre et que ces combats ont réellement eu lieu, qui auront pour conséquence d'amener la reconquête d'une partie de l'Aquitaine.
Et alors pourquoi cette bataille a eu lieu à Montalzin ?
Alors elle a eu lieu parce que c'est un piège en fait que les capitaines français, coachés, j'ai envie de dire, par le comte d'Armagnac, ont tendu aux Anglais parce qu'ils savaient qu'il y avait un fort contingent britannique, anglais, qui avait quitté Villeneuve-sur-Lot pour se rendre à Rodez, qui était un territoire anglais dans les deux cas, et qui devait passer justement par cet endroit de Montalzin, au nord de Montauban. Et pour les capitaines français, c'était l'endroit idéal pour tendre un piège, pour faire un guet-apens sur ce corps de troupes qui allait passer d'un bord à l'autre des possessions anglaises, et notamment mené par Thomas de Wotton Hall, qui était le sénéchal de Rouergue pour le roi d'Angleterre. Donc il y avait l'occasion de faire d'une pierre deux coups, détruire le corps de troupes ennemies, le surprendre, le détruire, et capturer éventuellement le sénéchal du roi d'Angleterre, qui aurait été une prise majeure.
Vous avez énormément d'informations pour une bataille qui est oubliée, point d'interrogation.
Et j'en ai beaucoup, mais parce que je dis, j'ai passé des heures, alors je ne sais pas si j'ai dû dire merci le Covid, mais en tout cas, j'ai eu le temps, on va dire, de fouiller tout ce que je pouvais. Et parfois, c'est vrai que c'est qu'une pièce, je ne trouve pas d'ensemble, c'est des pièces à gauche, à droite que j'ai pu récupérer, des petites informations, des mentions, j'essaie d'assembler mes pièces. Il y a encore, j'ai une vision aujourd'hui plus globale de ce qui a pu se passer, plus cohérente, mais il me reste encore beaucoup de zones d'ombre. Et il est peut-être même probable que ces zones d'ombre le resteront définitivement, notamment l'emplacement réel supposé de la bataille. On sait qu'il a eu lieu autour de Montalzin. Moi, personnellement, je pense que ça se situerait sur le secteur entre Montpezat de Quercy et Montalzin, mais je ne peux pas l'affirmer de manière garantie certaine. Voilà, il y a plein de zones d'ombre qui vont rester comme ça tout le temps dans l'ombre, définitivement.
Alors pour une petite bataille qui a eu, enfin petite, désolé pour ceux qui y sont morts, hein. Pour une bataille qui a lieu il y a quasiment 700 ans, quelles ont été vos sources? Comment vous avez pu retrouver, à part, vous nous disiez, les cartes d'état-major de l'époque, donc ultra vieilles, et puis les cartes actuelles avec la toponymie?
Alors j'ai beaucoup fouillé de manière large dans un premier temps dans les archives des archives de France, la Bibliothèque nationale de France, j'ai fait l'équivalent britannique. Et ensuite, en fait, tous les bulletins de la Société d'archéologie de Tarn-et-Garonne sont numérisés à la BNF à Paris. Donc j'ai pu avoir accès à 2-3 informations vraiment importantes. Et après, c'est un jeu de piste dans le sens, j'ai combien de fils à ma disposition pour tirer dessus. Donc je vais prendre tel personnage, je vais chercher tout ce que je peux sur ce personnage. Je vais chercher tel capitaine français, je vais chercher toute sa biographie, tout ce que je peux trouver, sachant qu'on parle du 14e siècle. Et ainsi de suite, et je suis remonté dans les archives du Pays de Galles, parce que Thomas de Wotton Hall était de là-bas, parce que le prince de Galles, le fameux prince noir, était prince de Galles, comte de Chester. Donc j'ai fouillé dans les archives de Chester à la recherche du sénéchal qu'il avait nommé. Voilà, c'est un jeu de pistes pour peut-être rien, et j'ai passé parfois des heures dessus pour rien. Et il y a parfois, au bout, une petite récompense, clac, j'ai une petite info. Alors, cette info, où est-ce que je la mets? Où est-ce qu'elle va dans l'histoire? Dans le déroulé? Voilà, ce qui m'a permis d'avoir potentiellement une vision beaucoup plus globale des événements et de la bataille en elle-même. Et même la bataille en soi, elle porte le nom de bataille de Montalzin, mais ce serait plutôt un combat. Il y avait peut-être moins de 1000 Anglais contre moins de 1000 Français. Maintenant, on ne peut pas comparer les armées de cette époque avec nos armées actuelles, qui se montent parfois en millions d'hommes. Déjà, 1000 hommes qui bougeaient au Moyen-Âge, c'était déjà une force un peu conséquente, surtout à l'échelle qui nous regarde. Donc, c'est pas une bataille, c'est un combat, et en même temps, c'est un combat, c'est pas noble. Et puis ensuite, c'est une guerre de capitaine, il n'y avait pas de grand seigneur qui a participé, il n'y avait pas le comte d'Armagnac, il n'y avait pas le roi de France, il n'y avait pas Bertrand du Guesclin, il n'y avait pas le prince noir du côté des Anglais. Donc, il n'y a pas eu de grands personnages qui se soient mis dedans. Et pourtant, il y a eu des échos. J'ai trouvé des échos chez Froissart, le fameux chroniqueur, Froissart qui en a parlé. Mais qui a fait une mention lointaine. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de piste, si je peux utiliser cette expression-là. J'ai pris une pièce et j'ai déroulé ma bobine en essayant de remonter et de trouver quelque chose. Voilà comment ça a fonctionné.
Qui a gagné?
Les Français. Les Français, et deux fois. À Montalzin le 17 janvier et à Mirabel 3 jours plus tard de nous.
Ah oui, d'accord. Et pourquoi ça a été oublié un petit peu tout ça alors? Parce que pas reconnu par le roi?
Parce que le roi ne le reconnaissait pas d'une part, il ne voulait absolument pas reconnaître qu'il y avait déjà eu un combat et contre les troupes anglaises, donc contre le roi d'Angleterre directement. Il faut savoir que Édouard III d'Angleterre et Charles V s'appréciaient, se respectaient énormément, mais en même temps ils étaient ennemis et déclenchaient la guerre. Et le roi Charles avait été à la terrible défaite de Poitiers en 1356, donc il avait subi cette humiliation. Il connaît la force des Anglais. Donc il ne veut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne veut pas être le roi qui déclenche la guerre. Il faut qu'on lui donne une cause. Et la cause, elle va arriver avec les seigneurs français qui sont accablés par un nouvel impôt du prince noir. Or, dans le traité, le prince noir, le roi d'Angleterre, ne pouvait pas imposer les chevaliers français, les nobles français, comme n'importe quel manant et autres. Donc voilà. Et le comte d'Armagnac, qui voulait récupérer ses possessions parce qu'il était à cheval entre l'Angleterre et la France, s'est servi de ça pour l'amener au roi de France. Et donc voilà, je vous amène une cause. Alors le roi de France a fait venir des juristes pour bien vérifier que c'est tout un truc comme ça, en fait. Et ensuite, comme je dis, il n'y avait pas de capitaine, de grand capitaine qui y a participé. Donc en fait, dans l'esprit des chroniqueurs, c'était peut-être pas intéressant. Puis comme il s'agit aussi d'un piège, d'un guet-apens, c'est pas la grande guerre, c'est pas la guerre noble de la chevalerie, c'est ce qu'on a. Voilà, c'est la petite guerre. Or, la petite guerre qui en a été l'initiateur aussi en France a été Bertrand du Guesclin. Et il a fallu très longtemps avant que Bertrand du Guesclin soit reconnu comme un chevalier au sens noble du terme. Normalement, on fait la guerre avec des grands corps de troupes, on se rentre dedans et on se défie de cette manière. La petite guerre de guérilla, ce qu'on appelle la guérilla aujourd'hui, c'est pas une guerre noble. Donc il y a ça aussi peut-être qui fait que Montalvin ne soit pas rentré dans le bréviaire des batailles de la guerre de Cent Ans.
Des batailles et des personnages, hein. Vous nous parliez du prince noir, d'Édouard III d'Angleterre, donc de Bertrand du Guesclin, de Jean d'Armagnac, de Jeanne d'Arc, de Charles V, et j'en passe, tout un tas de personnages que moi, personnellement, j'avais complètement oublié depuis mes cours du collège, voire du primaire. Vous pouvez nous resituer très rapidement cette guerre de Cent Ans pour qu'on se fasse un avant-goût avant de venir à la conférence que vous proposez vendredi ?
Alors, le cadre en lui-même, d'accord, c'est la guerre de Cent Ans qui a duré 116 ans officiellement, de 1337 à 1453, et qui a été une alternance de périodes de guerre, et on a pris quelques déroutes monumentales, comme à Crécy, comme à Poitiers, comme à Azincourt, par exemple. C'est les trois noms vraiment les plus emblématiques des défaites qu'on a pu subir. Et il y a eu des périodes de paix, aussi des traités qu'on a signés, qui n'étaient pas vraiment à notre avantage, diplomatiquement parlant. On n'était pas du tout à notre avantage. Et le traité qui nous concerne à nous, précisément dans notre région, c'est le traité de Brétigny en 1360, qui fait suite à la grosse défaite de Poitiers 4 ans auparavant. Et ce traité permet à l'Angleterre, au Royaume d'Angleterre, de récupérer énormément de dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, si on parle en géographie actuelle, on va des côtes de l'Atlantique jusqu'en Ardèche sans jamais quitter le territoire anglais. Donc on a perdu tous ces territoires. Montauban devient une position anglaise aussi, jusqu'à Millau, et c'était hyper important pour les Anglais parce que depuis ce qu'on appelle l'Aveyron aujourd'hui, on était tourné vers Avignon. Or, les papes étaient situés en Avignon à cette époque, donc ça permettait encore une fois d'augmenter la diplomatie. Ça permettait aux Anglais aussi de continuer d'entourer, d'encercler la France par le sud. Le domaine royal était véritablement encerclé. Le paradoxe, c'est que la région de Toulouse et une partie des Pyrénées ont échappé aux Anglais. Toulouse était bien française et le frère du roi de France, Louis d'Anjou, était positionné à Toulouse au nom de son frère. Et ça aura une incidence pour notamment la bataille de Montalvin parce que c'était lui qui était chargé de payer les capitaines français au nom du roi de France, mais discrètement. Bien évidemment, il ne pouvait pas le faire au grand jour. Donc voilà, le cadre, c'est la guerre de Cent Ans. C'est un épisode de l'histoire qui a été long et qui a marqué durablement les relations entre les Français et les Britanniques, même si aujourd'hui, bien évidemment, tout ceci est très apaisé. Mais on s'est très souvent retrouvés dans notre pays, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaînes, parce qu'il y avait des territoires qui étaient anglais, mais avec des seigneurs qui restaient français. On avait des territoires français avec des seigneurs qui étaient anglais. Donc ça donne tout un melting pot de positions. En fait, on sait par exemple que Montauban a été française, puis anglaise, mais en fait les Anglais ne contrôlaient pas la campagne entre Bordeaux, Agen et Montauban. Donc c'est tout un melting pot, un méli-mélo, selon les intérêts de chacun et selon les fidélités de chacun.
Et c'était au XIVe siècle, il y a 700 ans, et vous continuez à creuser en trouvant des pépites donc autour de la guerre de Cent Ans. Cette bataille de Montalzar, c'était en 1369. Vous avez enquêté sur cette bataille oubliée en Tarn-et-Garonne. On peut retrouver l'entièreté de ce que vous avez pu exhumer des archives ce vendredi à 18h30 lors de cette conférence qui se tiendra à l'auditorium du château de Nègrepelisse sur l'invitation de l'association Les Échanges Essentiels. Eh ben, merci beaucoup. William,
avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli chez vous.
Et ben merci pour toutes ces infos. Je rappelle que vous êtes prof d'histoire géo et que cette conférence est totalement gratuite, comme toutes les conférences de l'association Les Échanges Essentiels. Merci beaucoup à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera comme d'habitude rediffusé à 18h et à 21h et comme de coutume à réécouter en podcast sur le site de cfmradio.fr. Restez encore juste après les infos, la suite du mag, c'est depuis Montauban avec